Aujourd'hui, à la balado Sportaine, tête à tête avec Madame Danielle Sauvageau. Comment ça va, Danielle?
Ça va très bien, toi.
Oui, ça va très, très bien. Ça va d'autant bien que tu es avec nous.
Ah, c'est bien fait. C'est bien gentil.
Écoute, non, moi, je tenais vraiment à ce que tu sois avec nous parce que tu as un parcours impressionnant. Hein? Puis, bon, s'il y a des gens qui ne le savent pas, tu as quand même dirigé l'équipe canadienne féminine aux Jeux de 2002. Puis, non seulement l'as-tu dirigé, mais vous avez gagné la médaille d'or en hockey sur glace. 6 fois aux Olympiques comme joueur, conseiller, pas comme joueur, mais comme entraîneur, conseiller, administrateur. Tu as été la première femme analyste à la soirée du hockey. Tu as été la première femme entraîneur adjointe dans la Ligue junior majeure du Québec. Et un paquet d'autres réalisations qui font en sorte que, ben, aujourd'hui, on peut s'asseoir ensemble, jaser un peu sur un paquet de sujets qui sont en lien avec nous, notre mission chez Sportaide, donc de sport sain et sécuritaire. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené au hockey? Ça vient d'où, cette passion-là?
C'est une excellente question que je réponds toujours un petit peu de la même façon. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'elle a évolué, cette réponse-là, au cours des années avec une certaine perspective. Des fois, on se dit, bien, c'est peut-être pour ça que je me suis j'ai commencé là. Mais j'ai grandi à côté d'un parc. Un parc où il y avait la piscine municipale. L'hiver, il y avait 3-4 des bandes, là, tu sais, les patinoires extérieures. Plus jeune, le terrain de jeu, bien, on sortait, puis ma mère ou mon père nous regardait marcher jusqu'au parc, puis on passait la journée là, puis on revenait. Alors pour moi, d'être active, d'être dans un environnement, que ce soit d'action, de sport, ça a toujours fait partie, ou ça a fait partie de ma jeunesse définitivement. Alors, l'été, comme l'hiver, j'ai passé beaucoup de temps avec mes frères qui étaient les deux plus jeunes que moi. Et à un moment donné, quand eux ont été plus vieux pour jouer, assez âgés pour jouer du hockey dit organisé, parce que j'ai grandi à Deux-Montagnes, il n'y avait pas d'aréna. Donc, on n'avait que les patinoires extérieures. Donc, le softball l'été, la natation, le hockey l'hiver. Alors, lorsque mes parents, ma mère avait recommencé à travailler, ben, elle disait, « Mais Daniel, tu vas aller à l'aréna avec les deux garçons. » Puis eux vont jouer au hockey. Mais je dis, mais c'est parce que moi aussi, je joue au hockey. Alors, quand je suis arrivée à l'aréna, je fais le signe parce que j'avais l'impression que je les tenais carrément par la main. Et ça a été, bien, nous sommes ici pour jouer au hockey. Et j'oublierai jamais les yeux de l'homme qui me dit, bien, eux peuvent, mais pas toi.
Ben voyons.
Parce que c'était... Alors, bien, j'ai dit, bien, pourquoi? Bien, parce que t'es une fille. Et là, je me disais, je vais passer du temps avec eux, il faut que je les ramène à la maison, mais je vais devenir une gardienne d'aréna de mes frères. Et je sais pas pourquoi, la première chose qui est sortie, probablement que j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, bien, est-ce que je peux aider? Ils ont dit, bien, regarde, tu peux amener les bouteilles au banc, les bouteilles d'eau au banc. Et c'est peut-être comme ça que le mot banc, ça m'a amené jusqu'aux Olympiques, derrière le banc. Donc, oui, j'ai joué au hockey, mais j'ai jamais joué au hockey dit organisé parce que ça n'existait pas. Donc, éventuellement, j'ai été sur la glace, dans les patinoires, sur la patinoire, faire des passes, ramasser les rondelles. Derrière le blanc, au début, c'était d'ouvrir la fameuse porte. Les petits bonhommes revenaient au banc, puis je leur disais un petit peu qu'est-ce que je pensais qu'ils devraient faire. Donc, je pense que j'ai développé le sens de faire au lieu de faire. Puis je me suis dit, bon, bien, c'est comme ça. C'est comme ça, mais qu'est-ce que je peux retirer par rapport à c'est comme ça? Et tu l'as mentionné tantôt, 6 Jeux olympiques, mais j'en rajoute un 7e comme policière. En 88, j'étais dans la GRC et j'ai été assignée aux Jeux de Calgary. Donc, mes premiers Jeux olympiques, je les ai vécus comme policière. Et là, la règle était, si tu portes l'uniforme, tu peux aller voir tous les événements que tu veux. Est-ce que j'ai besoin de te dire que j'avais l'uniforme sur le dos 20 heures par jour? Parce que j'ai vu des compétitions, c'était extraordinaire. Et 10 ans après, à l'endroit principal où j'étais, c'est-à-dire au Canada Olympic Park, c'est là où on a nommé l'équipe olympique de 98. Wow. J'étais à ce moment-là assistante entraîneur. Alors, je me dis, quand je regarde, revenir à ta question, comment tout ça a commencé, bien, ça a commencé par une erreur de parcours, dans le sens qu'on me dit non, tu peux pas jouer au hockey. Puis ensuite, bon, bien, comment je suis rentrée dans la police? J'étais travailleuse sociale. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois à ce moment-là. J'ai vu une annonce dans le journal qui disait la GRC cherche la crème de la crème. J'ai dit, bon, je regarde psychologie, droit. Ah, c'est cool, c'est exactement ce que que j'aimerais faire. J'aimerais ça aller faire l'entraînement physique comme on la voit dans les films, là, où c'est très, très, très militaire. Ça a quand même beaucoup changé. Et 6 mois après, ben, j'étais rendue à Gendarmerie Royale du Canada, à Regina, et puis boum, à Apple River, puis ensuite aux Jeux olympiques. Fait que je me suis dit, le parcours du sport me ramène tout le temps, même si je ne vis pas du sport, même si je suis pas un... Tu sais, aujourd'hui, on peut vivre du sport, mm-hmm. on peut être un coach de carrière, on peut rêver. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu le petit baluchon que j'ai sur l'épaule, c'est de dire, moi, ce que j'ai pas eu, j'aimerais ça l'offrir. Ma mère a perdu sa mère à l'âge de 5 ans. Et, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, bien, ce que les gens voient pas, c'est difficile d'avoir, c'est vrai. Mais il y a aussi une petite partie de ceux qui ont pas eu, qui aujourd'hui ont le réflexe de pas vouloir le... moi, j'ai le réflexe de l'admirer, c'est-à-dire de, wow, t'as eu ça, j'aurais aimé l'avoir, mais maintenant, est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un d'autre vu que moi, je l'ai pas eu? Alors, c'est un peu dans cet environnement-là que j'ai grandi. Et pourtant, moi, j'ai des parents qui n'ont jamais fait de différence entre une jeune fille et un garçon. Mm-hmm. Au contraire, tu sais, ça a toujours été très égal ou équitable. J'aime mieux le mot équité. Donc, c'est un peu comme ça que ça a continué. Après ça, j'étais au ballon-ballet à Saint-Jérôme. J'étais le capitaine de l'équipe et quand j'ai fini mon passage de collégial, de cégep, pour aller vers l'Université de Montréal, l'entraîneur qui nous entraînait disait... en fait, le patron de l'entraîneur qui nous dirigeait m'a dit à un moment donné, ça te tenterait-tu de diriger l'équipe quand tu vas aller à l'université parce qu'on perd notre coach? Ah, j'ai dit quoi? Il va juste coacher les gars? Il dit non, on le perd complètement. Mais j'ai dit, tu m'offres l'équipe des filles. Si tu veux, je coach l'équipe des filles.
Au hockey,
tu vas... Non, au ballon-ballet. Il n'y avait okay. toujours pas de hockey. il faut que tu m'offres aussi l'emploi de... Il dit, ouais, mais là, ah, OK, un gars peut coacher des filles, mais une femme, mais pas l'inverse. Alors, cette équité-là, de est-ce que c'était de la naïveté? Est-ce que c'était, ben voyons donc, si je veux me développer... alors, j'ai eu l'emploi et après ça, j'ai poursuivi là, avec du hockey masculin. Là, j'ai vraiment été... Je me redirigeais vers le hockey masculin. Et ensuite, on m'a téléphoné en disant, écoute, il y a une équipe dite régionale qui aurait besoin d'un peu plus d'encadrement, d'organisation. Est-ce que tu voudrais t'en occuper? Il y avait un coach à ce moment-là. Et lors d'un tournoi à Bromont, je me rappelle comme si c'était hier, bon... mettons qu'on ne parlait pas d'éthique derrière le banc à ce moment-là, je vais dire ça comme ça. Et il est suspendu, puis on dit, « Ben Daniel, tu veux-tu aider derrière le banc? » Ben, je dis, « Ben oui. » Et je suis retournée derrière le banc de cette façon-là. Et ça m'a emmené jusqu'aux Jeux olympiques, tu sais. Et en passant par la Ligue junior majeure du Québec pendant une année où j'avais été là, remplacée au niveau du programme national pour essayer un autre coach pendant un an. Et y retourner par la suite.
Il n'y a vraiment rien qui te prédestine à ça. On ne peut même pas dire que c'est un rêve de petite fille. C'est vraiment des incidents de parcours, des fenêtres qui se sont entrouvertes. C'est impressionnant. J'ignorais ça. Moi, j'étais convaincu que tu avais joué au hockey et que tu as cheminé là-dedans. Mais comment t'en es... Puis en plus, dans une période où les filles dans le hockey n'occupaient pas... Aujourd'hui, c'est pas encore l'équité, mais... À ton époque, vous n'occupiez pas la place qu'elles ont aujourd'hui. C'était encore plus impressionnant. Tu as sûrement eu des embûches dans tout ça, là.
Mais en fait, tu dis qu'il y a des fenêtres qui se sont entrouvertes. Moi, je pense que j'ai cassé les carreaux des fenêtres pour pouvoir rentrer. Mais pour moi, il n'y en avait pas. Fait que on revient à dire, bien, c'est normal qu'on me dise que tu ne peux pas jouer, mais je ne comprenais pas pourquoi que lorsque j'étais sur les patinoires extérieures, personne autour de moi faisait de différence. Alors, tu sais, de pouvoir jouer sur les patinoires extérieures, de pouvoir jouer du hockey dit... tu sais, il y avait toujours des périodes de glace où tout le monde mettait leur bâton, mm-hmm. même à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que ça devrait revenir dans nos arénas. Là, tu oui. t'inscris, tu mets tes bâtons là, puis tout le monde joue ensemble. Là, moi, je pense qu'on devrait revenir un peu à ça. Mais il manque d'aréna, alors ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, je me disais, bien, ça se peut pas que ce soit comme ça. Alors, tu sais, quand tu dis que t'as pas de modèle, fait que tu peux pas penser que c'est faisable. Mais en même temps, moi, c'est l'inverse qui disait, bien, pourquoi moi, je peux pas le faire, tu sais?
Est-ce que c'est ça qui t'interpellait davantage que de dire, moi, j'aimerais ça être entraîneur?
Mais moi, je pense que je suis devenue entraîneur par la force des choses, mais okay. en même temps, dans mon profil, de laisser de la place. Aujourd'hui, tu sais, je suis un entraîneur de coach. Lorsque on a lancé le programme de l'Université de Montréal, lorsque Manon Simon m'a dit « On aimerait ça que tu lances un programme de hockey, est-ce que tu serais intéressé? » On pense que l'ajout d'un sport chez nous, c'est le bon moment, et on pense que ça devrait être du hockey féminin. J'étais en pleine préparation pour les Jeux de 2010. J'étais mentor-entraîneur, c'est-à-dire j'accompagnais des entraîneurs dans la préparation olympique. 14 sports confondus. Évidemment, pas sur le plan technique ni tactique, mais tout l'environnement de, justement,
en aider les gens,
le savoir-être. Mais en même temps, comment se comporter dans un milieu de... C'est une grosse différence entre un championnat du monde et les premiers Jeux olympiques. En plus, Vancouver était dans notre pays. Alors, bon, il y avait eu des fonds, puis j'étais mentor. J'étais devenu mentor avec l'équipe de waterpolo puis les Jeux de 2004. Après les Jeux olympiques de 2002, Jean-Pierre Thiby, qui était un peu, avant que ça devienne l'Institut, c'était le dirigeant du Centre multisport de Montréal. Puis il m'avait dit, Daniel, tu devrais coacher le waterpolo. J'ai dit, je sais même pas combien ils sont dans la piscine. Mais c'est parce qu'on a de la difficulté à faire en sorte, mais on va t'accompagner avec des coachs plus techniques. Mais j'ai dit, pourquoi pas faire l'inverse? J'ai dit, pourquoi ne pas prendre des jeunes coachs qui ont la technique, mais ils n'ont pas, justement, potentiellement l'expérience de faire l'identification du talent, de faire de la périodisation, d'arriver à faire ton plan total. Et c'est comme ça que je suis allée à mes premiers Jeux d'été, après avoir été aux Jeux panaméricains. Là, tu sais, tu dis, c'est un autre monde, là, les Jeux d'été. Alors, je pense que je me suis toujours retrouvée dans un endroit d'accompagner, que ce soit des organisations, des coachs ou des athlètes. Alors ça, je pense que ça fait partie de mon ADN. Ça fait partie de ce que j'étais prédestinée à faire. Et c'est la raison pour laquelle, bon, tu sais... oui, j'ai joué au hockey, mais jamais un niveau où j'aurais aimé mm-hmm. parce qu'il n'y en avait pas. Et on faisait tout pour me laisser bien comprendre que de mettre l'uniforme de la ville de Saint-Eustache, tu sais, je m'imaginais, là. Je m'imaginais dans tu sais, lorsque mon frère est arrivé bantam, est arrivé midget, est arrivé junior, je me suis dit, ben c'est comme moi, j'aurais pu faire ça, tu sais. Alors oui, j'ai grandi en croyant que, oui, je pourrais jouer avec Maurice Richard aussi, tu sais. Mais ces portes-là ne sont jamais ouvertes. Non. Mais les petites chances qu'on me donnait d'être près du banc, ben je l'ai pris. Et c'est un peu... cette notion-là, qu'à chaque fois qu'on me dit non, ben le mot « no », « no », c'est « new opportunity ». Tu sais, c'est comme, tu me dis non, mais pourquoi? Quand quelqu'un me dit « c'est pas possible », c'est impossible que tu me dises que c'est pas possible. Tu sais, on n'a même pas été jusqu'au bout. Et je pense que ça fait partie de mon ADN. Quand on me dit non ou quand on me dit ben c'est comme ça, ça marche comme ça, ça peut pas être ça la réponse pour moi. C'est pas suffisant.
Ben non. Il y a quelque chose que tu viens de mentionner là, moi qui m'ouvre une opportunité là. Quand tu nous parles de ton rôle d'accompagnateur, de mentor avec les entraîneurs, comment Daniel Sauvageau accompagne les entraîneurs? J'aimerais ça savoir, entendre comment, qu'est-ce que tu leur dis, de quoi tu discutes avec eux, qu'est-ce que tu leur lègues?
Bien, pour prendre l'exemple justement de 2004, lorsque je suis arrivé aux Jeux aquatiques, on était à Barcelone, j'ai dit, oh, j'adore ça, je me suis trompé de sport toute ma vie, tu sais. Il fait beau, on est sur le bord de la mer, puis en même temps, c'était ça. C'est maintenant, tes athlètes, tu vas les identifier comment? Pourquoi? Comment tu vas faire le suivi? Comment tu vas les évaluer match par match? Comment tu vas être capable de déterminer si la performance est au rendez-vous individuellement, par système de jeu, par équipe? Comment tu analyses les autres équipes? Donc, de tout mettre ça en place pour dire, bon, ben maintenant, tu as tous les morceaux du puzzle, puis comment tu vas prendre ta décision? Prendre la décision de choisir un gardien de but, par exemple. Ça, c'est un enjeu énorme pour tous les sports co qui doivent faire. Parce que tes deux ou tes trois gardiens de but pourraient être dans le filet. Mais maintenant, comment tu vas choisir ça? Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui va être content, les deux autres ne le seront pas. Mais maintenant, comment tu peux expliquer ou ne pas expliquer ta décision, mais de le dire? Donc, de ne pas aussi avoir d'avoir l'humilité qu'on n'est jamais parfait, on fait des erreurs, on avance, est-ce qu'on a fait les bons choix de système? Et comment te préparer, toi, comme entraîneur, à faire face à probablement une des situations les plus stressantes de ta carrière d'entraîneur? Et pour moi, tu sais, je rappelle ce que j'ai vécu en 2002. On avait perdu 8 matchs contre les Américaines. D'abord, on avait perdu 98. Mm-hmm. Mais de 90 à 98, on n'avait pas perdu un match sur la scène internationale. Alors, c'était une catastrophe pour le Canada de perdre la première médaille d'or de l'histoire du sport joué aux Olympiques. Et les Américaines sont demeurées ensemble pendant 4 ans. Donc, nous, lorsqu'on a fait de la centralisation de 2002, pendant 6 mois, on n'était pas du tout au même niveau de préparation. D'autant plus que lorsque j'avais repris l'équipe de 99, une jeune gardienne de but, Kim Saint-Pierre, là, qui va être introduite au Temple de la renommée bientôt, pour moi, j'avais changé le processus d'identification du talent. Et ça, c'était un changement de culture à Hockey Canada. Et là, je suis là 2 ans, on gagne 2 championnats du monde. Je m'en vais coacher junior majeur, je reviens, j'avais l'impression qu'on était même en retard. Donc, on a perdu 8 matchs contre les États-Unis. On arrive au match de finale, l'arbitre du match nous donne 8 punitions d'affilée, 26 minutes à court d'une joueuse. Mais pour moi, toute la préparation, justement, de la police, c'est-à-dire de ma carrière policière, d'être dans le moment présent et de prendre l'information, de la digérer et prendre une décision rapide, bien, ça, pour moi, d'avoir vécu dans ces 2 carrières-là me permettait d'accompagner des jeunes entraîneurs en disant, maintenant, toi, ta préparation. Et plusieurs me disaient, beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de préparation des entraîneurs, mais à ce moment-là, j'arrivais de je sais pas où quand je leur parlais, toi, tu vas te préparer comment? Tu vas garder la forme comment? Quand on parle des 4 banques énergétiques là, en coaching, mentalement, émotionnellement, physiquement, puis de croire que tu as le bon plan, ça, c'est tes 4 banques. Là. Comment tu vas arriver à gérer ça?
Tu les amenais ailleurs, là.
Lorsque tu te sens tout seul, parce que j'ai dit, moi, je me suis sentie tout seul ben des années, tu sais. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire du mentorat. Puis en même temps, c'est de développer une relation. T'es pas là pour les évaluer. C'est un peu lorsque j'étais sur le panel qui a créé Onde de Podium. Mm-hmm. On était un panel de 5 et Charles Cardinal était un des membres, des 5 membres de ce panel-là. Puis on a évalué l'ensemble du système sportif, puis qui avait besoin de quoi et quand. Et ensuite, lorsque le podium a été créé, bien, moi, je voulais continuer à faire du mentorat parce que je voulais pas être le juge. Je voulais pas évaluer les organisations pour dire, bien, si tu performes pas, tu n'auras pas de funding, de financement. Donc, de rester dans la relation où... Puis dernièrement, j'ai fait un Zoom là, dans la semaine nationale des entraîneurs pour apprendre que un entraîneur avec qui j'avais simplement intervenu ou même été présente dans la même pièce que lui aux Olympiques de 2004 s'en rappelait et ça l'avait marqué. Et je me disais, wow, ça vient encore me dire que la façon qu'on parle, la façon qu'on se comporte, la façon qu'on regarde les gens, l'homme qui me dit, tu peux pas jouer au hockey, on peut marquer les gens. Donc, pour moi, ça, c'est simplement d'être là à côté. T'as besoin, t'as pas besoin. Ou de dire, écoute, la façon que tu t'exprimes aujourd'hui, c'est pas toi. T'es-tu correct? Maintenant, comment ça va à la maison? Parce que, veux pas, un entraîneur est parti souvent. Comment ça gère tout ça? Donc, c'est une longue réponse, mais pour dire que t'es un accompagnateur, beaucoup plus qu'un mentor, dans le fond, même si le titre, c'est un peu ce qu'on nous donne. Mais t'accompagnes les gens à être un peu comme une zone de réflexion, de penser tout haut, de pouvoir te confier, de pouvoir, à la limite, défier tes propres... mais d'être dans un environnement sécuritaire. On demande aux entraîneurs de développer des milieux d'encadrement sécuritaire, positif, qui fait en sorte que tout le monde se développe. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les entraîneurs, pour les placer dans un environnement? Et pourtant, on met l'entière responsabilité du développement de l'athlète au cœur des mains, du cœur et de la tête d'un entraîneur. Et malheureusement, ben, on est très, très vite pour dire on change d'entraîneur, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et pour moi, ben, lorsqu'on m'a donné l'opportunité ou lorsqu'on m'en donne encore l'opportunité, ben, ça, c'est quelque chose qui me revient beaucoup, qui me rejoint plutôt beaucoup, parce que justement, si on nomme le coach au cœur de l'athlète, ben, je pense que l'entraîneur est au cœur du système sportif. On a beau être des administrateurs, on a beau décider, même bien souvent pour l'entraîneur, puis on n'est même pas là en train de dire, bien, comment ça se passe? sur le terrain. Et c'est un peu ça qui me fait qu'aujourd'hui, lorsque je sois sur des conseils d'administration ou c'est des projets plus stratégiques, je veux revenir avec des entraîneurs. Et encore une fois, lorsqu'on m'avait donné la possibilité d'être entraîneur avec l'Université de Montréal, j'avais dit non. Mon rôle, c'est de développer des entraîneurs. Ou c'est le rôle que je me donne. Je suis pas nommée par personne, mais c'est le rôle que je me donne. Et on avait fait le choix sur Isabelle Leclerc, qui est mine de rien aujourd'hui dans la ligue du RSOQ ici au Québec, la vétérante. Deux fois championne de programme et deux fois champion canadien. On nous avait dit que ça va vous prendre des années avant de construire ça. Et c'est un des plus beaux programmes au Canada. Alors, de choisir les bonnes personnes au bon moment et de les accompagner. Mm-hmm. Elle n'avait jamais coaché ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est d'ouvrir des portes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça se développe, le sport féminin. C'est de donner, de créer des emplois, de donner des opportunités à des gens de croître et de prendre leur place.
Je vais revenir sur l'encadrement à donner aux entraîneurs, sur la place du sport féminin. Mais j'aimerais ça savoir, toi, tu t'es développé comment? Parce qu'écoute, t'écouter, là, moi, si j'étais entraîneur, je voudrais que tu viennes m'accompagner. Mais toi, tu t'es formé comment? Tu as évolué comment?
Là, d'abord, au niveau du Hockey Québec, Hockey Canada, là, les cinq niveaux à l'époque, aujourd'hui, c'est la nomenclature est un peu changée. Mais pour moi, je n'attendais pas d'avoir un emploi pour pouvoir suivre ça. Je suis amoureuse de l'information, de lire. C'est sûr qu'on n'avait pas les balados dans ce temps-là non plus. J'ai l'impression qu'on retourne 100 ans en arrière. Mais en même temps, ça a beaucoup évolué, tu sais. Mais de pouvoir parler, d'aller cogner à la porte de d'autres sports, de faire aussi, de dire, eux font ça, qu'est-ce que nous, on pourrait apprendre? Et ça, je pense que c'est une approche un peu dite... Tu sais, dans la police, on nous développe en disant, prenez l'information, vous devez réagir et agir rapidement et ensuite, évidemment, faire en sorte que ce que vous avez fait était la bonne affaire avec le temps que vous aviez. Alors, pour moi, c'est de travailler justement en amont et de dire, bon, bien, si, j'attendrai pas qu'il y ait une opportunité, soit pour un poste, pour dire, il manque tel cours. Alors, je suis allée suivre, les cours d'enquête, les cours de ci, les cours de ça, mais je faisais la même chose dans le sport. Et je me rappelle, lorsque je me suis présentée au niveau 1, qui est aujourd'hui niveau 1, les gens me disaient, bien, t'es un administrateur, t'es une gérante d'équipe. Non, je suis un coach de hockey comme toi. Lorsque j'ai coaché avec Gaston Therrien dans la Ligue junior majeure du Québec, lorsque les gars m'ont vu arriver, ils ont dit, ouais, on sait qu'elle arrive de l'équipe nationale, mais ça veut dire quoi, tu sais? Puis à la fin de l'année, on me disait, au début de l'année, on te connaissait, et aujourd'hui, t'es reconnu. Alors, je pense qu'un développement, oui, il y a des développements, que ce soit la certification qui est établie, que ce soit pour s'assurer que les coachs aient minimalement une certification, mais en même temps, lorsqu'on est, on est avare, justement, d'informations et de lire qu'est-ce qui se passe. Mon père me dit souvent, écoute, les livres blancs, là, qui, je les ai encore, c'était Édition de l'homme sur la psychologie,
leçon
sur
de les persévérance.
Je les ai encore. Puis je mettais des notes. Et encore aujourd'hui, des fois, je les consulte, puis je me dis, pourquoi j'ai marqué cette note-là? Alors, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication que je suis né avec ce champ d'intérêt-là qui est d'apprendre. Sinon, on se laisse dépasser.
Tu as fait allusion au fait que tu as observé dans d'autres sports. Est-ce qu'il y a des sports qui t'ont, en dehors du hockey, qui t'ont influencé vraiment dans ta façon de faire?
Mais mon père était un amateur de football. Je dis était, je devrais dire est un amateur de football. Alors, tout ce qui se passe au football, avec justement, je ne sais pas combien de coachs. Et ça, pour moi, le football, ça a été très, très, très présent. Petit, on nous disait, bien, la natation, la piscine est là. Donc, il faut que tu suives tous les cours jusqu'à la médaille pour être sauveteur. Là, moi, je me disais, bon, bien, tant qu'à faire ça, je vais aller sauveteur. OK, là, c'est fait, je vais faire d'autres choses. Alors, dans ce temps-là aussi, à l'école secondaire, on avait l'option de prendre un cours d'éducation physique de plus. Alors, il y avait trois périodes et puis on pouvait en ajouter un aussi. Donc, on se ramassait avec 7 ou 8 périodes par semaine. Alors, j'ai eu l'occasion de faire à peu près tous les sports. On s'inscrivait aux Jeux du Québec en regardant l'horaire, en disant, OK, comment on peut maximiser le nombre d'inscriptions de sports en fonction des horaires? Ah bien, c'est ça qu'on va faire cette année. Alors, pour moi, tu sais, c'était de regarder les règlements. J'adore le tennis aujourd'hui. C'est un sport que je regarde, qui me repose à regarder, parce que quand je regarde du hockey, ben je l'analyse, fait que ça me repose pas du tout. Mais je pense que j'aime beaucoup le sport. Et souvent, je dis à la blague, si j'avais été exposé à du basketball, peut-être je serais devenu un entraîneur de basketball. Tu sais, c'est un sport que j'ai fait. Softball, lorsque j'ai été justement aux Jeux de 2004 et de 2008, on m'avait assigné les sports d'équipe, incluant la softball. Je me disais, ben j'ai jamais... Tu sais, j'étais à ça de faire l'équipe nationale à chaque fois. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, je travaille avec l'entraîneur aux Olympiques de l'équipe nationale. Alors, je pense que... Oui, c'est vrai que j'ai dû briser des carreaux pour arriver où là je suis. J'ai été avec les sports avec lesquels j'étais impliqué, mais en même temps, je pense que la vie, je dis merci à la vie.
Précédemment, tu as nommé le savoir-être. Puis, quand dans ton travail d'accompagnatrice, d'entraîneur, nous autres chez nous, on n'arrête pas de dire qu'il faudrait peut-être cesser de se concentrer sur le savoir-faire des entraîneurs lorsqu'on les sélectionne, mais davantage mettre l'emphase sur le savoir-être. Toi, quand tu t'assois avec les entraîneurs, que tu en rencontres, quelles sont pour toi les qualités les plus importantes d'un bon entraîneur aujourd'hui?
Bien, c'est l'écoute. Je pense que l'écoute reliée à l'observation, d'être capable d'observer, d'être capable d'écouter, d'être capable d'analyser, digérer l'information, puis ensuite de donner le bon feedback à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est... Oui, ça peut être technique... je crois fondamentalement que dans quelques années, l'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey ne sera même plus sur la patinoire. C'est rendu technique, c'est rendu... il va être derrière le banc. Et souvent, ce qui... regardons les coachs de carrière dans la Ligue nationale de hockey, ce n'est pas nécessairement les meilleurs coachs à enseigner comment patiner, parce que ça, il y en a beaucoup. Mais comment tu te comportes derrière le banc? Comment tu te comportes dans la performance ou dans la non-performance? Qu'est-ce qui fait que les joueurs vont vouloir croire en eux? Parce que quand j'entends « il faut croire à l'entraîneur pour performer », moi, c'est pas du tout... Moi, notre rôle, c'est que ces joueurs-là ou les athlètes croient en eux et les accompagner à l'intérieur de ça. Donc, je pense que d'être là comme accompagnateur, oui, comme coach, parce qu'on est appelé à prendre des décisions que, malheureusement, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ces décisions-là, surtout dans les sports courts, lorsqu'il vient le temps au niveau du temps de jeu des gens, de choisir les athlètes avec des critères évidemment subjectifs, surtout dans un sport collectif. Mais en même temps, je pense que les premières, la technique du sport, si toi, tu ne l'as pas, tu vas être capable de trouver quelqu'un quelque part qui va dire, regarde, aujourd'hui, là, j'aimerais ça avoir, je ne sais pas, que ce soit au golf, il s'est tellement rendu spécialisé qu'il y a des gens qui se spécialisent même à l'intérieur d'un sport sur les mises en jeu, sur le patin, sur les tirs, les gardiens de but. Donc, l'habileté de prendre l'information et ensuite de l'actualiser en décision commence par l'écoute, l'observation et la capacité justement de tout gérer tout ça et de le mettre en place. Moi, je pense que c'est la priorité d'un entraîneur. Puis ensuite, au niveau technique, bien, tu peux aller chercher, un peu comme un CEO de compagnie, tu vas aller chercher les éléments que tu as besoin d'avoir.
Tu nous as parlé de ta façon de voir, de la manière que tu t'es développé. As-tu eu des modèles qui t'ont influencé?
J'ai eu des modèles et, entre autres, la première personne qui vient à l'esprit, c'est Mme Lison Stiguier, une policière qui je regardais justement sa carrière. On se connaissait pas, on s'était même jamais physiquement rencontrés. Et je me disais, mon Dieu, qu'elle semble avoir de la difficulté. C'est la plus haute gradée. On a l'impression qu'on la juge. Tout le monde la connaît parce que c'est une femme, mais en même temps, elle peut pas aller à droite. Il y a un commentaire. Elle va à gauche, elle a le commentaire de quelqu'un d'autre. Et c'est lorsque j'ai donné justement une entrevue à savoir c'est qui tes modèles dans la police qu'elle a appris que pour moi, c'était un modèle. Alors oui, on peut apprendre de modèles qu'on ne connaît pas par l'observation, justement, par ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas. Même chose au niveau du hockey. Pour moi, c'était... je regardais Scotty Bowman parce qu'avec son lien justement avec Montréal, avec Verdun, avec le Canadien de Montréal, mais on ne s'était jamais rencontrés, tu sais. Puis je me disais, bien, c'est un monsieur qui semble passer le temps, les générations sont différentes.
L'as-tu rencontré?
Oui, je l'ai rencontré. Okay. Et j'étais avec l'équipe nationale, on jouait un match contre les États-Unis à Chicago, ou à Détroit plutôt. Et je suis assise dans son bureau et ils ont dit, non, non, vous avez le vestiaire de l'équipe, l'équipe n'est pas ici. Et je suis assise à son bureau, puis là, je me sentais là, wow. Big, là, puis avec mon équipe. Et là, je me lève les yeux et il rentre.
Ben voyons.
Là, j'étais avec... Non, non, excuse-moi, je ne veux pas vous déranger dans votre meeting, mais Scotty Bowman qui me dit, excuse-moi, je ne veux pas te déranger. Et là, finalement, je l'ai invité à rester, évidemment, puis on s'est reparlé quelques fois par la suite. Et je suis sur un comité avec Hockey Canada, qui est l'Ordre du hockey au Canada. Et il y a 2 ans, il a été justement celui-là, un des 3 qui avait été nommé. Alors, j'ai eu l'occasion de le revoir quelques fois après. Et puis, c'est un peu ça, tu sais, je le regarde encore aujourd'hui, puis quand on y parle, puis dans son, encore une fois, dans son humilité, ça, c'est une bonne question, puis, tu sais, c'est pas le monsieur qui arrive, puis qui sait tout, puis parce que c'est pas du tout ça, tu sais. Et je pense que c'est ça, le coaching, t'es toujours un peu dans le doute. T'es toujours en, est-ce qu'on fait la bonne affaire, est-ce qu'on fait pas la bonne affaire, et de justement, de pouvoir s'exprimer comme ça, ça, pour moi, c'est les deux personnes là, qui me vient en tête. Là. Puis il y a des gens, aujourd'hui, quand je regarde... tantôt, je vous ai parlé d'Isabelle Leclerc, puis je me dis des fois, « Eh, mon Dieu, moi, je ferais pas ça comme ça. » Alors, sans le savoir, ben elle vient m'influencer parce que je me dis, ah, « c'est une autre façon de voir les choses. » Puis elle voit, justement, avec son feeling, et c'est ça que je voulais créer, tu sais. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Alors, ça m'indique aujourd'hui que mon propre développement a passé à travers aussi le développement des autres. Et pour moi, c'est un peu ça. Donc, tu peux être un modèle, tu peux observer des modèles qui sont plus vieux que toi, dans d'autres sphères, dans d'autres... Tu sais, tout le monde a lu sur la F1, mais c'est tellement technique que le savoir-faire est là, le savoir-être, ben c'est pas là. Alors, tu sais, d'aller chercher d'autres mondes aussi... J'ai eu l'occasion de faire une partie d'un petit bout de le film des Boys. Et pour moi, oui, là, si on dit, ben, tu pouvais arriver à telle heure. Mais moi, je suis arrivée très, très tôt et restée très, très tard pour voir comment les gens travaillaient. C'était quoi ce milieu-là, cette culture-là? Y a-t-il quelque chose que je peux importer? Et j'avais été demandé justement là, lorsque il y avait eu la création d'un genre de mentorat sur la scène internationale pour aller travailler avec d'autres pays. J'ai accompagné la France 5 ans dans leur développement du hockey. Et on m'avait demandé justement là, d'aider les mentors à s'adapter à des cultures. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait avec d'autres, que ce soit dans la police, dans l'art, dans le film, qui m'a aidé à mieux comprendre qu'il y a des cultures différentes, qu'il y a des langues différentes, qu'il y a des besoins de réalisation différents. On a tous des profils différents, même si on est dans le sport. Et ça, ça m'a grandement aidé là, dans mon accompagnement de coach.
Un peu plus tôt, tu as parlé de l'importance de l'encadrement pour nos entraîneurs. Qu'est-ce qu'on devrait faire mieux en termes d'encadrement, d'accompagnement, mais aussi de reconnaissance de la fonction?
Bien, la reconnaissance de la fonction, je pense que ça passe par là, parce que pendant bien des années, on a tenté de professionnaliser le métier ou la profession d'entraîneur. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller à la banque pour avoir un prêt personnel, puis t'es coach de hockey ou t'es coach, peu importe, c'est comme...
C'est pas considéré.
C'est une job, ça. De plus en plus, parce que tu es capable de donner ton contrat de travail, etc., etc. Mais je pense que de vraiment reconnaître et de reconnaître qu'il y a peut-être un cheminement. Puis qu'à un moment donné, de prendre un entraîneur parce que, par exemple, il vient de faire un cycle olympique, de le faire travailler avec les plus jeunes, de le ramener, mais de vraiment encadrer la bonne personne au bon moment. Mais bien souvent, malheureusement, on perd beaucoup de nos coachs de haute performance dans plusieurs de sports au sein de d'autres pays. Puis on va chercher des coachs d'ailleurs en pensant qu'ils sont meilleurs d'une certaine façon. Alors, je pense que c'est la reconnaissance que Si tu travailles longtemps avec des athlètes à un niveau de stress élevé, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut bien aller. Puis si ça va moins bien, bien, y a-tu de l'accompagnement qui va faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse arriver ou de dire est-ce que t'es encore avec le bon groupe d'athlètes? Mais je pense que de continuer là, à regarder l'encadrement qu'on donne aux entraîneurs, on va vraiment mieux définir ce que c'est l'éthique d'entraîneur. Qu'est-ce qui est permis? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qui est vu comme un comportement qui pourrait être vu comme abusif? À la limite, ça pourrait même aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je pense que de mieux encadrer la profession comme telle, mais d'accompagner justement. Et pas simplement, ça va bien, on te garde, ça va plus bien, t'es plus là. Et ça, je pense que on se doit, surtout dans des milieux universitaires, collégiales, associatifs, d'en faire des coachs de carrière. Moi, je suis allée observer dans des pays, là, complètement, je me dis, j'aurais même pas choisi de
me rendre... Dans le hockey ou
dans d'autres sports? Dans d'autres sports. Pour aller voir, j'ai accompagné pratiquement 5 ans le développement du patin courte-piste au Québec. Donc, encore une fois, comment ça se passe dans les autres sports? C'est quoi la culture, d'ailleurs? Permet justement de voir que on peut mieux développer l'encadrement et l'entraîneur est au cœur, justement, des athlètes. Et ça, je pense que on pourrait gagner, un peu comme un professeur, tu sais. Si un prof serait avec les mêmes athlètes, les mêmes étudiants, ben on dirait ben, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui devrait les prendre à un niveau. Dans certains pays, lorsque tu arrives à la tête, là, tu viens de gagner une médaille d'or, on se dit, bien, toi, t'es le meilleur des meilleurs. Fait qu'on veut que tu viennes travailler avec les plus jeunes parce que si on les encadre adéquatement dès qu'ils commencent à avoir l'intérêt pour la haute performance, bien, on va les développer adéquatement. Tandis que là, alors comment on pourrait faire pour mieux faire en sorte que nos coachs de carrière, nos coachs soient mieux utilisés dans un système qui leur permettrait justement de dire, bon, ben là, je veux aller dans un autre niveau ou je veux aller dans une autre région, mais de pouvoir justement compter sur leur expérience et les garder beaucoup plus longtemps. Donald Dion m'avait dit à un moment donné, tu vas voir, quand tu vas arriver à 40 ans, tu vas être brûlé. Je dis, ben non, moi, je vais faire du coaching jusqu'à... Mais il avait un peu raison, parce que lorsque je suis revenue des Jeux olympiques, j'avais en bas de 40 ans, et je me disais, oh, je suis mieux de faire un petit pas en arrière, puis de revenir, puis c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais pris une pause.
Pour en avoir déjà discuté avec toi, je sais que le sport sain, sécuritaire, c'est important pour toi. Pourquoi? As-tu déjà vécu quelque chose, vu des choses probablement, ou pourquoi c'est important pour toi?
Bien, un peu des deux dans le choix de réponse que tu m'offres, parce que, bon, 33 ans dans la police, de développer des milieux sécuritaires dans lesquels nos jeunes peuvent aller au parc de façon sécuritaire, peuvent s'amuser avec les gens de leur quartier sécuritaire, que les personnes âgées puissent aller faire leur épicerie sans se demander qu'est-ce qui va se passer. Mais pour moi, ça, c'est pas étrange à ce qui se passe dans nos parcs, dans nos patinoires, de donner justement un cadre sécuritaire au développement. Et que ce soit à l'école, que ce soit par le sport, on dit souvent que le sport, c'est une école de vie, mais en même temps, de pouvoir les offrir à faire en sorte que les gens puissent retirer des expériences positives. Alors, de créer des expériences, et c'est peut-être pas pour tout le monde, la haute performance, mais on doit être capable de dire à quelqu'un, ta sélection, tu n'es pas retenu pour la sélection. Et voici pourquoi. Sans que ça soit vécu comme étant un mauvais passage. Ça fait partie de la vie, ce genre de décision-là. Et en même temps, un coach, c'est d'emmener quelqu'un d'un point A au point B. Et si c'est ça, bien, on n'est pas obligé de les emmener dans le mur. Et malheureusement, lorsqu'on développe des encadrements où on ne contribue pas à un environnement qui est positif, bien, on amène des gens dans le mur. Et je pense que c'est pas sain pour personne. Lorsqu'on veut développer des communautés, ça passe par des environnements sains, sécuritaires, et dans lesquels les gens n'ont pas peur, justement, de faire soit leur sport ou d'aller à l'épicerie. Alors, pour moi, c'est la même analogie.
On ne peut pas s'asseoir avec toi sans parler de la place des filles, des femmes dans le sport, quand on sait que le haut taux de décrochage des jeunes filles dans le sport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renverser cette tendance-là?
Bien, de dire tu peux être là dans un premier temps. Oui, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru entre tu peux pas jouer au hockey aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai encore des parents qui m'écrivent en disant j'ai inscrit ma petite fille aujourd'hui au hockey, puis on me dit, bien, t'es-tu sûr que tu veux jouer au hockey? Juste ça, tu sais, juste le fait de t'es ici pour jouer au hockey, de encore là, de dire, peu importe que le hockey, de voir le sport comme le sport qui peut être joué par les filles et par les garçons. Et on n'est malheureusement pas là pour la plupart des, des sports. Donc, d'être invitant, de créer, de parler de l'humain au lieu de parler du petit garçon ou de la petite fille qui joue peu importe à quoi. Donc, si on développe un environnement qui répond aux besoins de l'athlète, de la petite fille, du petit garçon qui veut faire du sport, bien, peut-être qu'on aurait un taux de décrochage qui serait beaucoup moins parce que l'intérêt d'être là, de participer, on sait, hein, les filles, d'arrêter, par exemple, si je prends l'analogie du hockey, bien, on fait à peu près les mêmes niveaux que chez les garçons. Mais est-ce qu'on fait la bonne chose? Parce qu'on sait que le besoin d'affiliation, par exemple, chez la petite fille est beaucoup plus grand. Donc, si on détache la petite fille de son environnement, bien, est-ce qu'elle va poursuivre? Alors, est-ce qu'on adapte justement au même titre qu'on adapte l'école? Enseigner pour le petit garçon ou pour la petite fille, est-ce qu'on pourrait pas justement mieux s'adapter pour donner le besoin, de répondre aux besoins? Mais pour répondre aux besoins, il faut d'abord accepter qu'il y a des défis, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des endroits, encore une fois, que je suis pas sûre qu'on veut tant développer le sport féminin. On le voit aussi chez les parents. Les petites filles, ils s'en vont s'amuser en faisant un sport et le petit garçon s'en va compétitionner. C'est correct parce que c'est même dans leur ADN. Une petite fille, enfant, va jouer peu importe à quoi, longtemps. Le petit garçon, s'il n'y a pas un but, une fin, bien souvent, il va abandonner entre les deux, tandis que la petite fille ne l'abandonnera pas. Alors, est-ce qu'on incite à bouger jeune en fonction de la réalité qu'on a devant nous? Et tant aussi longtemps qu'on... Au même titre que lorsque je suis rentrée dans la police, il y avait justement des programmes d'accès à l'égalité. Et on était 132 quand je suis revenue ici à Montréal, ou 112, je pense. Et aujourd'hui, il y a 1600 policières à Montréal, ou à peu près. Alors, on n'en parle plus de ça. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder des programmes d'accès à l'égalité, accès à l'équité, de répondre aux besoins qui vont faire en sorte que on va développer l'intérêt et on va exposer les petites filles à beaucoup plus de sport, puis en disant, c'est possible même peut-être de gagner ta vie à un moment donné.
Bien, je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais avec le service de police à la ville de Montréal. Est-ce que justement, dans le sport, il n'y a pas une absence de modèle de femmes comme entraîneurs, comme administrateurs? Parce que c'est vraiment un problème de recrutement. L'année passée, on était assis avec les fédérations sportives, puis ils nous le disaient, c'est difficile d'aller en chercher des femmes. Ils veulent pas venir s'impliquer dans le sport. Pourquoi tu penses que c'est comme ça?
Je trouve ça terrible, dire que c'est difficile d'aller chercher des femmes, mais est-ce que l'environnement qu'on a créé est invitant? Est-ce qu'on on veut vraiment ou c'est... Bien, on en veut, mais c'est dur d'aller en chercher. Mais si on en voulait, il y en aurait. Au même titre que, là, à peu près un petit peu plus qu'une année, il y a un journaliste qui m'appelle et me dit, « Daniel, j'ai une question. Est-ce que tu penses que tu fais minimalement partie des 397 meilleurs entraîneurs en Amérique du Nord? » Ben, je dis, « Au hockey? » Je dis, « Bien, je pense que oui. » Parce qu'il dit, « Il n'y a pas de femmes dans la Ligue nationale. » Puis, bon, il descend. Ben, je dis, « Bien, moi, je le prends personnel. » Il dit, « Tu peux pas. Il n'y en a pas. » Donc, c'est systémique. Tu sais, à un moment donné, on en veut, mais le système fait en sorte
jusqu'à
que...
Jusqu'à quel point on en veut vraiment?
Ouais, individuellement, hein, c'est un peu ça. Hein, quand individuellement, on n'est pas... mais lorsque le groupe fait en sorte qu'on se dit, ben là, attends une seconde, est-ce qu'on doit attendre de créer des règles pour avoir des femmes sur les conseils d'administration ou des femmes dans les arénas? Encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus cette question-là qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là? Et... encore une fois, d'avoir la réponse, oui, mais on en veut, mais c'est difficile d'aller l'en chercher. J'achète pas ce commentaire-là.
OK. Quand on regarde la situation du hockey professionnel féminin, qui n'occupe pas vraiment la même place que le hockey masculin, le traitement aussi, quand on regarde les revenus que les filles ont, puis pourtant c'est du hockey professionnel aussi, ça aussi c'est un signal qui est préoccupant parce que les petites filles qui regardent ça, ils font comme « Ouais, peux-tu vraiment aspirer à ça, moi? » Encore là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi il n'y a pas chez les décideurs cette volonté de supporter davantage et d'avoir une espèce d'équité avec les filles et les femmes qui font du sport?
D'abord, le sport professionnel, c'est un choix pour tout le monde. Il y en a qui veulent aller voir du tennis, il y en a c'est du hockey, il y en a d'autres c'est du basketball. Donc, d'obliger des gens à aller voir du hockey féminin, c'est comme... bien souvent, c'est peut-être de prendre, en tout cas, le problème pas nécessairement du bon endroit. Mais... en même temps, de donner le même encadrement. On a des Marie-Philippe Poulin sur Montréal.
Et la
Montréal.
Même visibilité, même tribune aussi.
La même chose. On a des Mélodie Daou. Puis on cherche encore à dire comment qu'on les entraîne, d'avoir la reconnaissance d'un centre de haute performance, une reconnaissance de créer une ligue. Et ensuite, les gens vont venir. Une des meilleures années pour, justement, les spectateurs de l'Université de Montréal, ça a été l'année passée. Au bout de 11 ans, les gens viennent, ça crée un engouement un peu comme on le voit là, aux États-Unis, entre les universités, Concordia et McGill. Ça prend, évidemment, du temps à créer ça. J'ai eu souvent des conversations avec Richard Legendre en disant « Comment c'est arrivé pour le tennis féminin? » Il dit « Daniel, la journée qu'on s'est dit « On va investir dans le sport », on a investi dans le sport, puis on s'est dit « Ça nous prend des femmes, ça nous prend des hommes. » Mais si on avait dit « On va dépenser à investir, par exemple, pour avoir la création d'avoir plus de femmes, on n'en serait pas là. » Donc, on a investi dans le développement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le tennis féminin va super bien pour le Canada. Mais dis, on le fait, ça. Mm-hmm. Alors, il faut consciemment dire « Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos Olympiennes aient un endroit de compétition qui va faire à la limite que les gens vont aller le voir autre que juste aux Olympiques. » Et ça veut dire d'avoir une vision, d'avoir que ce soit, oui, la Ligue nationale, est-ce qu'elle doit être au rendez-vous, ne serait-ce que de prendre 10 % de leur budget de marketing pour développer ce qu'eux disent qu'ils veulent développer, c'est-à-dire un fan base. Et leur vision, c'est « Hockey for everyone ». Bien, prends 10 % pas de ta masse salariale, 10 % de ton budget de marketing et demain matin, on est capable de créer une ligue dite professionnelle.
Trouves-tu que les médias en font assez pour mettre le sport féminin dans la vitrine?
Non. Si on regarde les statistiques, il y a des statistiques qui disent c'est 1 point quelque chose, l'autre qui vont dire 3 % de l'ensemble du sport écrit par les web, c'est environ 3 % qu'on parle de sport féminin. Et lorsqu'on décortique dans la façon dont on parle du sport féminin, ben c'est une telle qui est divorcée ou une telle qui a sa marque de vêtements. As-tu vu les cheveux de... Alors, si on décortique, ça n'en fait pas beaucoup. Alors ça, c'est un autre cercle vicieux parce que pour avoir des partenaires financiers au rendez-vous, ben c'est quoi la visibilité que vous m'offrez? Alors, moi, je fais partie de celles qui croient qu'on doit légiférer sur, au même titre qu'on a dit au niveau du CRTC, on doit avoir un minimum de la musique francophone. Mm-hmm. Sinon, est-ce qu'on aurait protégé notre musique, notre langue? Alors, on doit faire la même chose et de dire aux télés de ce monde, aux radios de ce monde, je peux pas croire, moi, qu'il n'y a pas de place sur peu importe les plateformes, de parler de sport féminin plus que 3 %
Tout à fait.
Et quand on me dit, oui, mais nos commanditaires, eux autres, on va peut-être baisser nos codes d'écoute, vous ne l'avez jamais fait. Encore une fois, je n'achète pas du tout cet argument.
Moi, j'aimerais ça revenir à ton parcours, ton bagage, puis faire un clin d'œil aussi à tes années d'expérience dans le milieu policier, à la GRC, où tu étais, à moins de me tromper, attitré à l'unité des stupéfiants. Puis tu as sûrement eu des expériences de travail où la gestion de ton stress devait être assez fortement générée. Est-ce qu'il y a des parallèles? Est-ce que ça t'a servi dans le monde du sport, dans tes fonctions d'entraîneur? Puis comment tu t'es inspiré de ça, ces expériences-là?
Bien, les deux mondes m'ont appris. Je pense que je suis devenue une meilleure policière pour avoir justement regardé d'autres choses. Et l'inverse, c'est vrai. Vous savez, dans la police, on nous remet une arme, puis on nous dit, ben maintenant, prends la décision. C'est toi qui vas être appelé à prendre la pire décision qu'un policier peut prendre. Donc, la capacité, comme je disais tantôt, de prendre l'information, la digérer et d'agir, et en même temps, de demeurer dans le moment présent. Lorsqu'il y a une situation à haut risque, t'as un rôle indépendant qui est pas défini du tout. La police se prépare à des événements. On sait pas quand ils vont arriver, on sait pas qui va être là, on sait pas quelle température, la journée. Donc, on est prêt à faire face à
toute éventualité.
Dans le sport, on sait à peu près qui on va jouer. On a des vidéos. Alors, moi, je me disais, il faut tout préparer, mais il faut laisser aux athlètes cette habileté-là d'être capable de dire, oui, mais si ça arrive pas comme tu penses que ça va arriver, qu'est-ce que je vais faire? Donc, de continuer à faire réfléchir les athlètes, d'avoir une partie prenante à leur développement et en même temps une partie prenante, si je parle de hockey, au plan de match. Alors ça, je pense que c'est important. C'est important dans toutes les politiques qu'on a, si on veut développer, peu importe, l'environnement, il faut s'assurer qu'il y a une partie prenante des gens avec qui on va desservir. Donc, pour moi, cette capacité-là d'être dans le moment présent, d'être préparé à toute éventualité, d'apprendre aussi à travailler en équipe, mais sans nécessairement un rôle établi, une hiérarchie établie, puis avec qui tu vas travailler. On arrive sur un événement majeur, que ce soit la Polytechnique, que ce soit Dawson, bien, on va arriver, est-ce qu'on va arriver premier? Est-ce qu'on va arriver quatrième? Est-ce qu'on va arriver centième? Alors, quand tu arrives, bien, c'est quoi le rôle que tu as à jouer? Tu es appelé à travailler avec des gens que tu ne travailles pas. Donc, j'ai appris que ce monde-là, lorsqu'il arrivait des choses, on était tissé très, très serré. Et dans le monde du sport, mais quand les choses ne vont pas bien, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Alors, je pense que le meilleur des deux mondes, puis d'être capable d'importer un par rapport à l'autre, mais c'est surtout le moment présent, la capacité de dire « j'ai un rôle à faire, j'ai une action à faire, c'est quoi l'information que j'ai devant moi, puis c'est qui est autour de moi ». Fait que mine de rien, je viens de vous parler de comment j'ai défini les 5 niveaux de leadership. C'est de faire ce que tu as à faire, fallait avec l'autre, pour l'autre, en équipe, puis pour la communauté, tu sais. Et je pense que dans les deux mondes, c'est ce que j'ai appris. Puis je pense que ça, pour moi, ça se passe pas autrement.
J'aimerais ça revenir, moi, sur ton passage avec le Rocket de Montréal, avec Gaston Therrien. Tu es la première femme entraîneur, assistant entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais moi, de me tromper, il n'y en a pas eu d'autres depuis.
Non, il n'y en a pas eu d'autres depuis, puis en même temps, aussi dans la Ligue canadienne de hockey.
En plus.
Oui.
Comment, quand tu arrives dans cet environnement-là, tu réussis à t'imposer, à avoir l'adhésion du groupe? C'est des gars, ils te voient arriver, la fille dans le vestiaire. C'est la première fois que ça leur arrive, probablement. Comment t'as géré ça? Comment ça s'est passé?
Bien, d'abord, je suis pas arrivée en voulant m'imposer. Je suis arrivée en disant, bien, moi, je suis ici pour vous accompagner. Donc, c'est une relation dans laquelle on va développer. Et je pense que très rapidement, premièrement, j'arrivais aussi de l'équipe canadienne.
Est-ce que ça a été facilitant en termes de crédibilité? Mettons que tu n'aurais pas eu cette
Je sais pas, parce que j'avais l'impression que les garçons ne savaient même pas que le hockey féminin existait d'une certaine façon. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'a eu une incidence. Et Gaston m'avait dit, tu sais, c'est quand même des gros bonhommes, hein? Ça a 18 ans. Puis j'ai dit, je suis dans la police depuis 15 ans. À junior majeur, là, on n'est pas là, là. Alors, pour moi, d'arriver dans un environnement de hockey, dans un environnement où c'était des gars qui voulaient gagner, qui, oui, voulaient se faire une place, mais en même temps, je pense qu'une des choses qui m'a grandement favorisé, c'est de travailler individuellement avec eux, ce qui se faisait très peu dans la Ligue junior majeure du Québec à ce moment-là. D'être capable de travailler pratiquement en disant, regarde, j'ai pris des statistiques au niveau de tes mises en jeu, tes zéros en 6, surtout contre telle équipe, ou peu importe, c'est, wow, maintenant, comment que je peux travailler. Puis on avait eu un joueur clé dès le début de l'année qui avait été blessé. Alors moi, je disais à Gaston, je vais travailler sur le protocole de retour à l'entraînement, puis ensuite de retour au jeu. Il dit, c'est quoi ça? Alors, ce qui est... Fait que, tu sais, puis le jeune, il disait, je vais perdre ma place, je suis blessé en début de l'année, je pourrais pas continuer, je pourrais pas être repêché. Alors, toutes ces peurs-là, en disant, bien, OK, t'es blessé, factuel. Maintenant, voici le protocole de retour, on va travailler là-dessus. Donc, des accompagnés...
Ça devait être rassurant d'entendre ça.
Très rassurant. Et pour lui, c'était, il y a quelqu'un qui m'aide. Alors ça se parle vite. Alors, au point où, à un moment donné, je ne devais pas être derrière le banc. Je disais, mais là, si je suis un coach de hockey, il faut que je sois derrière le banc. Et que lorsque les gars venaient au banc, par exemple, lors d'arrêt de jeu, ben, ils me parlaient à moi. Et Gaston disait, hey, c'est moi l'entraîneur-chef. Mais en même temps, lui, il savait que quand les gars faisaient ça, j'avais toute ma place. Alors, je pense que Gaston m'a donné beaucoup de place. Je pense qu'on a développé une belle relation, justement, une amitié. On se voit et on se parle, évidemment, encore. Alors, je pense que, même déçu que je retourne à l'équipe olympique, je disais, moi, mon rêve, c'est de gagner une médaille olympique. Puis c'est là qu'à la fin de l'année, il m'a dit, tu sais, on te connaissait à la fin de l'année, mais là, on te reconnaît. Si tu restais dans la Ligue, probablement que tu irais dans la Ligue nationale un jour. Et je dis, bien, je vais pouvoir revenir. Puis j'avais parlé au Danny Dubé, au Clément Jaudoin, puis on disait, tu vas pouvoir retourner dans la Ligue junior majeure du Québec quand tu voudras. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas nécessairement payé pour faire ça.
Non.
Alors ça, c'est quand même... Alors je suis allée retourner aux Olympiques, et puis ensuite, l'équipe a déménagé. Et là, pour moi, j'étais rendue ailleurs. Là. Donc, c'est un beau passage, même que... Louis Robitaille, qui est maintenant le DG, l'entraîneur-chef de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec. On a eu quelques discussions. Et pour moi, quand je le regarde jouer, je me dis, waouh, tu sais, il y avait 16 ans.
Mm-hmm.
Et il y avait justement beaucoup de leadership. On a gardé quelques contacts là, au cours des années. Puis j'étais tellement contente lorsque justement il est revenu ici dans la Ligue junior avec Victoriaville et maintenant avec Gatineau. Alors, c'est quand on est capable de regarder un peu en arrière puis de dire, bien, mon passage a été positif. Difficile, oui. Il y en a qui me crient à peu près toutes sortes de noms.
Oui, certainement.
Mais en même temps, tu sais, je me rappelle, ma grand-mère m'avait dit, il va toujours avoir quelqu'un qui va te regarder et puis va dire, ça ne marchera pas. Puis quand ils vont voir que, tu sais, ils vont dire, ah, elle est chanceuse, tu sais, ça ne durera pas, puis après ça, ils vont dire, t'es chanceuse. Donc, c'est un peu ça, mais... On dirait que c'est l'histoire de ma vie, d'être dans des endroits, des grandes premières, d'une certaine façon. Première à la soirée du hockey, première dans la Ligue junior majeure du Québec, première à remporter la médaille d'or. C'est juste un concours de circonstances qui vient mettre un peu de paix et de calme dans « je veux être là, donnez-moi une place ». Puis on dirait qu'il est toujours arrivé quelque chose qui m'a gardé parce qu'il y a un tournant positif. Et c'est un peu ça, hein, la persévérance, c'est de dire jusqu'où je vais, puis... Quand je dis c'est terminé, mais je pense qu'il faut continuer parce qu'on ne sait jamais, on est peut-être juste un petit pas de réussir.
Le temps passe trop vite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant?
Plus d'ouverture pour le sport peut-être féminin, pour des programmes qui vont, dans le temps, durer, de travailler sur ce qui a été bâti jusqu'à date et de dire, bien, pourquoi pas? Tu sais, je vois derrière toi des petites filles, des petits garçons, puis je me dis, bien, pourquoi pas qu'eux n'aient pas à dire, bien, on ne m'a pas dit, tu ne peux pas jouer au hockey ou tu ne peux pas faire ça ou tu ne peux pas travailler dans le sport. Et je pense que ça passe par la création d'emplois. Et pour ça, il faut reconnaître le sport féminin.
Daniel Sauvageau, merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Merci. À bientôt.